Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
Et bienvenue sur Médien, si vous venez de nous rejoindre, c'est avec un énorme plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle escale culture au cœur de l'Afrique.
Médien, Amna, l'Afrique en culture.
Et dans quelques instants, nous aurons l'immense plaisir de recevoir Sana El Khamouni, la directrice du groupe acrobatique de Tanger. Elle a créé sa compagnie en 2003 dans le but de valoriser des artistes acrobates traditionnels et leur donner leur statut d'artiste. Depuis, eh bien, cette superbe aventure s'est transformée en rêve. On parlera de ce nouveau spectacle en pleine préparation, toujours avec la directrice du groupe acrobatique de Tanger, Sana El Khamouni. Sinon, nous aurons également l'immense plaisir de recevoir Rabia Marouche, grande amoureuse des mots, du verbe, de la littérature, écrivaine, docteur en littérature, mais également éditrice. Elle nous revient dernièrement avec un nouveau livre, un essai, autour de la figure de l'écrivaine Nina Bouraoui, La tentation de l'universel. On en parle dans quelques minutes. Sinon, nous parlerons cinéma avec La Petite Vendeuse de Soleil, le classique de Djibril Diop, Mambéty, qui était à l'honneur lors du festival Cinéma Vue d'Afrique, qui a refermé ses portes donc, le 21 avril. Nous aurons donc l'occasion de parler de ce film plus en détail, toujours dans l'Afrique en culture. Mais avant toute chose, place à notre première invitée du jour. Elle s'appelle Sana El Khamouni, c'est la directrice du groupe acrobatique de Tanger. Elle a créé sa compagnie en 2003 et le but était de valoriser des artistes acrobates traditionnels et leur donner leur statut d'artiste. Ces mêmes artistes vivaient d'animation dans les hôtels ou encore dans les rues. Et au départ du projet, il y avait donc cette dimension avant tout sociale et militante. Puis, il y avait également ce désir profond de donner un souffle nouveau à l'acrobatie marocaine, une tradition ancestrale de la culture marocaine qui était, si j'ose dire, en voie de disparition. Après un spectacle baptisé Fer en compagnie de Hassan Hajjaj, le groupe acrobatique de Tanger prépare en ce moment même un nouveau spectacle chapeauté par la chorégraphe Raphaël Wattel et on en parle avec Sana El Khamouni, la directrice du groupe acrobatique de Tanger.
Pour ce spectacle, donc, Raphaël il a eu vraiment l'envie de faire un ballet-cirque, qui est une idée vraiment très originale, et je suis sûre que ça va être magnifique. Donc du coup, on est sur une équipe mélangée entre des artistes circassiens et des artistes danseurs. Voilà, et c'est vrai que les danseurs qui ont été sélectionnés, c'est des danseurs qui ont quand même une dimension acrobatique dans leur danse. Donc c'est des danseurs qui viennent plutôt de la scène urbaine, de danse urbaine marocaine, que ce soit hip-hop, break ou popping. Donc voilà, c'est des artistes qui sont tous sublimes, que ce soit les circassiens ou les danseurs. Hein, donc ils étaient bien choisis. Et on était ravis de voir, suite à cette première résidence, que finalement ça matche super bien entre les danseurs et les circassiens. Donc ça, c'était un peu le défi aussi de ce spectacle. Donc c'est vrai qu'on a une équipe qui est super chouette. Et cette première résidence nous a affirmé et confirmé que ça va le faire et qu'on va pouvoir écrire un super et un joli ballet circassien. Voilà, donc effectivement, il va y avoir la danse, mais pas seulement. C'est de la danse avec une grande dimension acrobatique, encore une fois. Et il y aura vraiment un mélange des deux. Voilà. Sur scène, nous allons avoir 13 artistes. Donc, il y a 7 artistes circassiens et 6 artistes danseurs chorégraphes. Voilà. Et ils sont tous effectivement du Maroc. Alors, ce qui était chouette, encore une fois, c'est ce que j'ai remarqué, en tout cas ces dernières années. Je l'avais déjà remarqué pour FIRC, quand j'avais auditionné un nombre important d'artistes à travers de tout le royaume. J'étais agréablement surprise de tous les talents que nous avons et de toute cette nouvelle génération qui a aussi une vision, en fait, une vision artistique, qui a des envies, et pour certains d'entre eux, et pour nombreux, même pas certains, ils sont nombreux à avoir vraiment des projets qu'ils défendent, une vision, des envies, et je suis vraiment très fière de cette nouvelle génération qui ont envie de changer les choses, qui se battent pour leurs conditions d'artistes, qui se battent pour des idées, pour des valeurs. Donc, je suis vraiment fière de pouvoir travailler auprès de ces artistes, de pouvoir les promouvoir et les accompagner vraiment dans le développement de leur projet professionnel, mais voilà, dans une écriture assez spécifique, une écriture très contemporaine, et des challenges à relever à chaque fois. Donc encore une fois, j'étais agréablement surprise de tous les talents que nous avons pu rencontrer, et je me dis en fait qu'on a énormément de talents, mais que nous avons malheureusement pas suffisamment de structure, pas suffisamment de moyens pour accompagner toute cette jeunesse bourrée de talents. Et c'est vrai que autant je suis heureuse de pouvoir accompagner certains d'entre eux, autant je suis frustrée de voir que je ne peux pas le faire avec ceux qui ne sont pas choisis, parce que malheureusement, voilà, c'est des projets qui sont lourds, qui coûtent énormément d'argent. Malheureusement, nous n'avons aucun soutien du côté marocain. Voilà, mais je garde espoir, ça va venir. Mais c'est vrai que c'est une jeunesse qui a besoin d'être accompagnée, c'est une jeunesse qui a besoin d'être soutenue. On a besoin de lieux d'accompagnement, de lieux de création, de lieux de diffusion. Nous avons besoin de moyens. Et malheureusement, voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire dans le secteur. Donc voilà, nous, à notre niveau, on continue à se battre pour ancrer les pratiques circassiennes au Maroc. Mais c'est là où on constate que maintenant, il n'y a pas que le cirque. C'est vrai que la scène urbaine aussi, en danse urbaine, en parcours, en foot freestyle, en djinn, on a énormément d'artistes qui sont tous plus talentueux les uns que les autres. Et ils ne demandent qu'une chose, c'est qu'on leur donne l'opportunité de s'exprimer, l'opportunité de créer et l'opportunité de montrer leur travail et de défendre leur vision et leurs valeurs.
Merci encore une fois Sana El Khamouni d'avoir été avec nous. C'est vrai qu'on a hâte eh bien, de voir tous ces projets se concrétiser et on sera bien sûr toujours en rendez-vous dans l'Afrique en culture. Et après avoir parlé art du cirque acrobatie avec la directrice du groupe acrobatique de Tanger, Sana El Khamouni, tout de suite nous parlons cinéma et place donc tout de suite à La Petite Vendeuse de Soleil, un film signé par un des pionniers du cinéma africain qui était à l'honneur lors du cinéma Vue d'Afrique qui a refermé ses portes le 21 avril de ce mois. La Petite Vendeuse du Soleil, c'est l'histoire de Céline, une fille de 12 ans handicapée qui vient d'un milieu très défavorisé. Et pour gagner un peu d'argent, eh bien Céline mendie dans les rues de Dakar. Puis un matin, après avoir été une fois de plus humiliée par une bande de garçons vendeurs de journaux à la criée, eh bien elle décide d'arrêter de mendier et de vendre comme eux des soleils, célèbre quotidien sénégalais. Ce que les garçons font, les filles aussi peuvent le faire.
Le fils de sa place, Damasayon là, alors.
Un fils. Il met du bourre. Il y a un maillot, il y a un ligue.
La Petite Vendeuse de Soleil est un film vu comme porteur de rêves, de fantaisies, mais surtout d'imaginaire. Il témoigne aussi de la réalité d'existence et d'expériences vécues. Avec La Petite Vendeuse de Soleil, on a le droit à un cinéma militant au service des valeurs universelles profondément humaine. Le cinéaste sénégalais Djibril Diop Mambéty utilise les procédés propres à cette forme d'art et bien pour dépeindre une réalité qu'il connaît bien et qu'il souhaite révéler au monde. Son œuvre place ainsi le spectateur adulte et enfant face à cette même réalité. Le film La Petite Vendeuse de Soleil de Djibril Diop Mambéty est une œuvre juste et touchante. C'est un conte avant tout urbain, où on dépeint la réalité et le dur quotidien de ces enfants de la rue qui tentent chaque jour d'y survivre. Mambéty a fait ce film dans la souffrance. Rongé par la maladie, le cinéaste aborde son premier acte et dernier acte. Il tourne à Dakar en 96, peaufine sa production en Suisse, se soigne à Paris. Il mourra le 23 juillet 98. Le montage s'achève sans lui. Au cours de ces dernières années, le réalisateur visionnaire avait coutume de raconter aux enfants et aux adultes qu'il pressentait avoir toujours eu une âme d'enfant et que le cinéma était d'abord un rêve. Il conseillait d'ailleurs, eh bien, aux gens de fermer les yeux en mettant ses mains sur ses paupières, de penser très fort à une histoire pour voir s'accomplir une belle projection de cinéma. Et tout de suite, après avoir parlé cinéma, nous parlons littérature dans l'Afrique en culture et place à notre invitée, Rabia Marouche, grande amoureuse des mots, du verbe, de la littérature. Elle est écrivaine, docteur en littérature, également éditrice. Rabia Marouche s'est lancée il y a quelques temps dans le monde de l'édition en créant sa propre maison d'édition Africa Mood, tournée vers l'Afrique et pour l'Afrique. Le cœur du volcan, sur la pointe du jour, ou encore qu'est-ce que l'Afrique ? Elle nous revient dernièrement avec un essai sur l'écrivaine Nina Bouraoui, la tentation de l'universel. L'universel en tant que particularisme occidental imposé par la force des choses à l'Afrique, à ses écrivains. Un questionnement sur lequel s'est penché notamment Rabia Marouche dans Nina Bouraoui, la tentation de l'universel.
Et Nina Bouraoui s'est imposée parce que j'étais sur des questionnements justement sur l'identité, parce que je travaillais beaucoup sur l'autobiographie et l'autofiction. Donc le rapport entre l'écriture et l'identité, pourquoi on raconte sa vie, pourquoi on raconte son parcours dans un livre, quel est le but. Et donc arrivent les œuvres de Nina Bouraoui, d'abord parce que je trouvais ses livres passionnants, son écriture, son style. Et ensuite, elle rentrait tout à fait dans les questions que je me posais sur mes recherches universitaires, notamment le rapport entre les origines de l'écrivain et son appartenance et sa classification au niveau de la littérature, au niveau de ce qu'on appelle la République mondiale des lettres, donc qui est un concept de la littérature française. L'idée de la République mondiale des lettres, c'est l'universalité de l'écrivain, de l'écriture et de la littérature. Donc l'idée, c'est que tous les écrivains, quelles que soient leurs origines, quel que soit leur genre, ils sont tout à fait égalitaires et accèdent de la même façon à ce monde de la littérature, uniquement sur le critère de la qualité des œuvres, justement, donc sur le mérite, sur la compétence littéraire et de l'écriture. Donc, quand j'ai commencé mes recherches, j'ai trouvé qu'il y avait quand même encore des critères qui ne rentrent pas tout à fait dans la littérature et qui relèvent justement de l'origine des écrivains. Et ces écrivains, ils étaient classés à part, non pas sur des critères littéraires, mais sur des critères qui sont liés à leurs origines africaines, en tout cas de tous les écrivains qui sont d'origine d'anciennes colonies, qu'on classe souvent dans des catégories. Alors il y a plusieurs catégories, notamment la catégorie littérature francophone, ou littérature de l'immigration, ou littérature de l'entre-deux. Il y a plusieurs catégories. Et je me posais la question, pourquoi Nina Bouraoui, qui est écrivain française, qui est donc d'origine française, qui parle dans la langue maternelle et le français, puisqu'elle ne parle pas d'autres langues, et qui a toujours vécu en France, qui publie en France, qui est lu, édité en France, on continue quand même de la classer dans une catégorie à part et non pas dans la littérature française. C'est pour ça que je suis partie sur ces questionnements et la thèse, si vous voulez, l'idée générale de mon œuvre, c'est de dire que la classification dans la République mondiale des lettres ne se fait pas uniquement sur des critères littéraires, mais aussi sur des critères qui relèvent vraiment de la personne et de l'identité de l'écrivain. Donc, en étant classé dans des catégories à part, ça aussi a un impact sur l'accès à ce qu'on appelle l'idéal universaliste ou à cet universalisme littéraire qui est donc classé comme étant la destinée que tous les auteurs espèrent. Et donc, ça fait que, en fait, ces écrivains sont quelque part marginalisés et n'ont pas accès à cet idéal universel. Donc, c'est ça la thèse de mon ouvrage pour argumenter, documenter ma recherche sur cette idée de la marginalisation des auteurs dits francophones, quand bien même ils sont français et ils se revendiquent comme auteurs français.
D'ailleurs, il y a quelque temps, Rabia Marouche, vous avez créé votre propre maison d'édition, Africa Mood, donc à visée panafricaine. Est-ce que vous pouvez nous en parler et puis
cette remarque qui, voilà, même hors antenne, quand on parle littérature, les écrivains africains sont beaucoup lus à l'étranger. Et voilà, il y a une notoriété qu'on ne peut pas nier à l'international. Mais c'est vrai qu'entre nous, Africains, on ne se lit pas beaucoup. Et il y a comme une sorte un peu de paradoxe. Et voilà, pourquoi cette envie de créer cette maison d'édition? Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'état actuel du marché du livre sur notre continent?
Alors, l'idée de la maison d'édition, je pense que c'est un parcours qui est finalement assez logique et en conformité avec ma recherche intellectuelle et universitaire, qui était en fait le constat que, comme vous l'avez dit, beaucoup d'écrivains du continent sont publiés, lus et connus et célébrés à l'étranger. D'ailleurs, la renommée vient souvent de l'étranger, en dehors du continent. Et à l'intérieur du continent même, comme vous l'avez dit, on se lit très peu. Tout ce qui est produit sur le continent ne circule pas entre les pays. On ne sait pas ce qui se produit chez nos voisins maliens, mauritaniens ou sénégalais, et encore moins quand on s'éloigne un peu plus vers l'Afrique subsaharienne et vice-versa. Donc, de l'autre côté aussi, on ne sait pas ce qui se produit dans la partie qu'on appelle le Maghreb, donc le nord de l'Afrique. Donc, il y a vraiment un vrai problème de circulation des biens culturels de façon générale et de livres en particulier. Et donc, le constat, pour moi, c'est de dire, si on veut qu'on ait une littérature puissante, forte, et qu'on fasse nous-mêmes émerger des écrivains de grandes plumes, de grands noms à partir du continent, il faut qu'on se mette aujourd'hui à voir aussi nos propres maisons d'édition. Bon, il y en a beaucoup, mais il faut qu'on ait plus de soutien pour qu'on puisse être des véritables espaces qui seront en mesure de créer cette littérature africaine de demain, sur le continent, pour les Africains, et qui va circuler en Afrique et qui va être célébré, connu, nous publions en arabe, en français et en anglais, parce que c'est les langues les plus parlées sur le continent. Et bien sûr, je suis ouverte aussi à d'autres langues, puisqu'on a un continent qui est riche. Donc, on essaye d'apporter avec Africa Mode notre contribution à cette industrie du livre j'en suis convaincue, a de l'avenir. Et il faut qu'on fasse en fait notre partie en tant qu'éditeur.
Et c'est vrai que voilà, c'est de très belles choses qu'on va se créer sur notre continent avec l'émergence de tous ces beaux talents et des gens aussi également comme vous qui leur donnent la place pour pouvoir éclore. Merci beaucoup Rabia Marouche d'avoir été avec nous. C'est un plaisir que de vous recevoir. Merci.
Merci beaucoup Amna. Merci. Au revoir.
Au revoir.
Et avant de nous quitter dans l'Afrique en culture, je vous propose de rendre hommage à Maryse Condé, qui nous a quittés au début du mois. Née en 34 à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, Maryse Condé est l'auteur d'une œuvre monumentale. La trilogie Ségou, La migration des cœurs, La traversée de la mangrove, Désirada, La belle créole, Histoire de la femme cannibale ou encore Les belles ténébreuses. Elle dira « L'écriture, c'est une force que vous avez en vous. Rien d'autre ne vous plaît autant. C'est impossible de dire, je crois, le fond des choses. On est écrivain, on ne sait pas pourquoi. L'écriture comme mystère, comme un phénomène tout simplement insondable. Elle a commencé d'ailleurs à écrire très jeune et adolescente. Elle savait déjà qu'elle voulait être écrivaine. L'envie d'écrire est venue bien sûr des livres qui l'entouraient dans sa maison en Guadeloupe puisque ses deux parents étaient instituteurs fous amoureux de la culture et de la littérature. D'ailleurs, Maryse Condé était connue pour dire qu'à 12 ans, elle avait déjà lu tout Victor Hugo. Il faut dire que Maryse Condé a toujours été hantée par ses questions d'identité, de ses racines africaines. En grandissant en Guadeloupe, sa famille ne lui avait jamais expliqué que la présence des Noirs aux Antilles n'allait pas de soi, que c'était le résultat direct du processus historique d'esclavage et de colonisation. La quête des origines conduira d'ailleurs la romancière en Afrique, où elle a vécu 13 ans avant de regagner la France, puis les États-Unis, où elle était connue en tant qu'universitaire. À travers ses écrits, elle rendra compte, elle témoignera de sa vie en Afrique, des drames, des rencontres, mais c'est surtout avec son roman Ségou qu'elle sort de l'anonymat. comme en témoigne la romancière guadeloupéenne Gisèle Pinault, pour qui Maryse Condé a été un modèle de courage et de persévérance dans sa quête de l'écriture. C'est en lisant Ses goûts que j'ai découvert Maryse Condé à la télévision avec Bernard Pivot. Elle avait un charisme extraordinaire et je voyais déjà ce caractère très trempé, cette femme qu'on a vue et puis qui a décidé d'écrire et de s'affirmer et de dire « Je suis guadeloupéenne, mais j'ai le droit d'écrire sur l'Afrique et je vais raconter l'Afrique que je vois, moi, en tant qu'afro ». Descendante. Disparue dans la nuit du 1er au 2 avril, Maryse Condé était une grande voix de la littérature française et francophone, avec son actif pas moins d'une trentaine de romans et d'essais. Elle a contribué, il faut le souligner, à inscrire dans le marbre les pensées et les inquiétudes du Sud. Dans la francophonie, elle laisse derrière elle un héritage considérable, littéraire. Et on arrive à la fin de l'Afrique en culture. Merci d'avoir été avec nous, un peu de légèreté. Pour finir, Rema, calm down. Et je vous rappelle que l'Afrique en culture, c'est à écouter toujours en avant-première sur Média Podcast.
I love you, you know they for me, young girl. Oh, young girl, not tell me, no, 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 no.